nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Sommet face à la salle. Elle fait pivoter une dalle qui se trouve sous l'autel. La dalle lui montre à l'intérieur d'un petit trou un carnet noir. Elle le prend, le pose sur la table. Le carnet a une couverture de tissu noir. Elle s'apprête à l'ouvrir lorsqu'une énorme main se pose sur le carnet et lui dit. Elle regarde bien la main et dit « Pourquoi ?»
Tant que vous n'aurez pas fini.
La main se retire. Elle soupire. Et remet le carnet en place. Et s'en retourne. Le lendemain, en prenant leur petit déjeuner qu'ils prennent dans la salle à manger, Gilbert dit « Il y a aussi une chose à visiter. » Judith demande « Ah oui, où ?»« C'est les sous-sols du château. » La mère dit « Surtout pas. C'est dangereux, je ne veux plus que l'on y aille. » Judith lui dit « Je sais. »
À la fin, hein, petit.
Puis, ils ont joué au tennis dans l'après-midi.
Ah, oui, avantage dehors. Vas-y, tu vas gagner.
Oh! Tu sens venir la fin, hein, petit.
Avantage dehors. Vas-y, tu vas gagner.
Puis, ils sont repartis. La mère est satisfaite. Tout s'est très bien passé. A été raccompagnée jusqu'à Sigdel. Elle sort de voiture. Merci pour tout. Et elle va mettre la clé pour entrer dans son immeuble. Apparaît Serge. Elle regarde pour voir si la voiture des Franc-Blanc est bien partie. Oui, elle vient de partir. Elle lui dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il lui dit, « Et toi, moi, je rentre chez moi. Tu es parti avec les Franc-Blancs ?» Elle lui dit, « Oui, et alors, je suis bien libre, non ? Va-t'en, je suis crevé. Tu es crevé pour moi, mais pas pour eux. Je ne peux pas faire une scène, non ? Je suis libre, on ne se parle à rien. Et puis, je n'ai rien fait de mal. » Il lui dit, ça, c'est toi qui le dis. Elle voit qu'elle ne pourra pas s'en défaire. Alors, de guerre lance, elle ouvre son allée. Elle lui dit, je suis fatiguée, j'aimerais être seule. Il dit, je t'ai attendu toute la journée. Elle soupire. Elle entre. Il l'a suivi.
Elle va prendre l'ascenseur. Il la suit. Arrivé à son étage, elle ouvre la porte de son appartement. Elle entre. Il ferme la porte. Elle va aller dans sa chambre pour déposer sa valise. Elle dépose sur le lit et lui dit « Tu me dois des explications. » Elle regarde bien et lui dit « Écoute, on ne fait pas ce que l'on veut dans la vie. Mon patron m'a invité pour la fin de semaine avec lui. Je ne pouvais pas dire non. Alors j'y suis allée. » Il lui dit « Tu aurais pu lui dire que tu avais quelque chose à faire ?» Elle lui dit « Un patron passe toujours en premier. Et puis, ce n'est pas grave. » Il ouvre ses épaules, la main dans les poches, et lui dit, « Si, c'est grave. Parce que pour moi, tu n'as jamais le temps. Tandis qu'avec eux, et puis, c'est le fils qui cherche à te séduire. » Elle lui dit, ou c'est toi? Elle lui dit, non, ni l'un ni l'autre. Elle ouvre sa valise. Il regarde le pantalon et la vieille chemise. Il lui dit, c'est pourquoi ça? Et pourquoi faire? Elle lui dit, des vieux vêtements, tu vois bien? Oui, je le vois bien. Mais pourquoi faire? Elle lui dit, comme ça, parce que j'allais à la campagne pour me promener. Qu'est-ce que tu as fait? Rien, on s'est promené. Comment trouves-tu Gilbert? Bien, rien. Il devrait voir plus souvent, tiens. Elle lui dit, tu vois, je te dis que d'aller voir Gilbert. C'est bien la preuve qu'il n'y a rien entre nous. Il demande, je te demande comment tu trouves Gilbert. Elle lui dit, ben, je te demande de le voir parce que ça nous serait utile pour plus tard. Il demande, qu'est-ce que tu as fait, Gilbert, pendant ce week-end? Elle lui dit, j'avais invité Julien. Tu sais, si tu le voyais plus souvent, il t'aurait invité, toi aussi. Et puis, pourquoi, toi, tu n'as pas été invité? Il hausse ses épaules et lui dit, parce que je ne suis pas son ami. C'est Julien qui l'est. Eh bien, il faudra que tu le sois, toi aussi. Tu vois que ça peut être utile. Il lui dit, ce ne sera pas facile, parce que chez nous, les hommes, ce n'est pas comme chez vous. Vous, si vous tombez ami, vous tombez ami tout de suite. Et vous, c'est pour la vie. Tandis que nous, c'est pas pareil. C'est plus profond. Elle lui dit, eh bien, profond ou pas, il lui dit, Il faudra un autre accident. Elle le gifle. Il se sauve en courant. Et sort de la chambre. Elle la rattrape. Pardonne-moi, je t'ai fait mal. Elle lui caresse la joue, lui donne un baiser. Non, ce ne sera pas grave. Il la prend dans ses bras et l'embrasse sur les lèvres. Elle se laisse faire. Puis, elle lui dit, il faut partir. Il est tard. Tu vas rater ton train. Il lui dit, ça n'a pas d'importance. Elle lui dit, si ça en a. Si ton père la prend, tu recevras une sacrée. Te disputer. Déjà, elle n'est pas commode. Il lui demande, qu'est-ce qui t'a fait? Rien. Il est toujours après moi. Tu comprends? Il veut que je lui cède. Moi, je ne veux pas. C'est toi que j'aime. Et pas lui. Et puis, il est trop violent. Violent, mon père? Mais qu'est-ce qui te fait? Elle hausse ses épaules. N'en parlons plus. Moi, je veux savoir. Elle lui dit, rien de grave. Enfin, si, quoi? Rien. C'est ton père. Tu n'as pas le droit de le critiquer. Il y a sûrement des circonstances atténuantes. Tu comprends? Il vit seul, sans femme, et ça l'excite. Il lui dit, pas le droit d'être violent. Il t'a fait mal ou rien? Je n'ai plus mal. N'y pensons plus. Allez, il faut partir maintenant. Viens. Il lui dit, je ne veux plus qu'il te fasse de mal. Elle lui dit, ça ira. Puis elle lui dit, ses yeux et lui dit, je demande pardon. Elle le mène jusqu'à la sortie. Ils s'embrassent une dernière fois. Téléphone avant, je te promets, et la quitte. Elle ferme la porte. Ouh. Elle se dit qu'il est gentil, même touchant, et crampon. Faut que je fasse attention. J'ai à me servir de lui. Va se coucher.
lendemain matin, dans son bureau, le téléphone sonne. Elle a décroché.
Allô ? Oui ?
Mademoiselle Laure, je suis Monsieur Franblanc. Vous allez bien ?
Oui, monsieur, merci.
Je vous téléphone, c'est pour m'excuser de n'être pas venu au château. Vous avez... Ça s'est bien passé ?
Oui. Je vous remercie.
Et si je ne suis pas venu au château, c'est à cause de mon travail. C'est pour ça que je n'ai pas pu accompagner ma femme là-bas.
Ce n'est rien, monsieur. Je vous remercie pour tout.
Ça s'est très bien passé.
Oui, très bien, monsieur.
Et il lui dit,
écoutez, pour me faire pardonner de n'être pas venu, je vous invite au restaurant, disons, pour déjeuner, tout à l'heure. Cela vous va ?
Oui, monsieur, je vous remercie.
Il lui dit, alors à la sortie du siège, tenez, attendez-moi dans le hall. Alors, à tout à l'heure.
Merci, monsieur.
Elle raccroche.
Elle est heureuse, le PDG en personne.
À 11h45, elle attend dans le hall. Mademoiselle Lapin, en tailleur vert vif, lui demande.
Vous n'allez pas manger ?
J'attends quelqu'un.
Elle fait. Bien, je vous laisse.
Elle s'éloigne. Mais elle est curieuse et se demande qui ça doit être. On ne sait jamais avec elle. Elle va se cacher derrière un pilier et attend.
Et là, elle voit effarée le président personne aller à Judith et ils sortent ensemble. La lapin se dit, mon Dieu, quelle fille, le président, j'aurais jamais cru ça d'elle. Allez jusqu'au président.
Et elle sort en courant retrouver ses copines.
Qui vont manger dans un petit self pas bien loin du siège. Elle entre dans l'établissement.
D'accord, alors c'est pour qui le hamburger ?
Mademoiselle, ça fait une
le
heure.
Le resto
a...
est rouge et jaune. Oh oh, elle fonce sur la table de ses copines et leur dit « Vous ne devinez jamais ce que j'ai vu. La Judith avec le président. Oui. Lui aussi. » L'hôtesse lui dit «
On en a rien à foutre.
Ce n'est pas possible. J'ai tout essayé avec lui. Rien à faire. » Le lapin lui dit « Eh bien, avec elle, oui. Elle les a tous, même le président. » L'hôtesse lui dit, « Vous en êtes sûr ?»«
Tout à fait. Je les ai vus partir ensemble, la main dans la main. »«
Aujourd'hui ou pour demain ?»«
Monsieur, alors ce hamburger, c'est pour qui ?»«
Non, moi j'ai demandé un steak grillé. »«
Ouais, ça c'est pour moi, mais j'ai... »«
Ça fait une heure qu'on attend. »« Mais tout de suite, madame. »« Oh, je suis désolée. »
Thank you.
Pendant ce temps, Judith et Maurice sont dans un restaurant cossu en face de l'opéra. Décor du 9e, feutré, petite lumière à abat-jour, même l'après-midi, parce que le jour ne pénètre pas. Le maître d'hôtel les amène à une table et présente les cartes. Maurice se demande « Que prenez-vous ?» Elle lui dit « J'aimerais mieux prendre comme vous. » Il lui dit « Comme vous voudrez. » Alors voyons, canard à l'orange, salade aux fruits de mer, gratin de courge, à la crème, plateau de fromage et comme dessert, une charlotte. Une fois qu'il est commandé, leur vin aussi, il lui dit « Je m'excuse encore une fois de n'être pas venu, mais j'avais beaucoup de travail. » Je n'ai même plus de temps à moi. » Il leur sert leur salade. Il lui dit « J'aimerais bien, c'est que plus tard, avoir l'aide de mon fils, mais malheureusement, monsieur ne veut pas travailler avec moi. Les affaires ne l'intéressent pas. Moi qui aimerais avoir quelqu'un qui puisse m'aider. » Elle lui dit Vous avez le personnel. Oui, bien sûr, le personnel, de braves gens. » Elle lui dit, je vous comprends. Ce qu'il faudrait, ce sont des gens plus dynamiques, qui savent prendre des initiatives. Si j'embauchais du personnel, ce serait que des jeunes, place aux jeunes. » Il lui dit, vous avez raison, place aux jeunes. Malheureusement, le chef des relations humaines ne pense pas comme vous. Lui, il aime les gens plus calmes. » Elle lui dit, c'est de sa génération. Et il continue à discuter. Maurice trouve la jeune fille charmante et très intelligente. Souvent, il prend l'habitude de l'inviter déjeuner et même des fois, le soir, il l'invite à des soirées organisées par sa femme et aussi, ils vont entendre des concerts. Ils sont devenus bons amis. Il est tout à fait d'accord avec elle pour le rajeunissement du personnel. Il a énormément de travail, de conseils d'administration, le sien et celui de Jeune Pou Pontois, toujours les mêmes difficultés à déloger les gens, puis démolir les immeubles. Ce n'est pas facile de trouver lorsque le terrain appartient à l'un et l'immeuble à l'autre. Les jours passent. Judith se plaint de plus en plus à Serge de son père. Il est violent et veut absolument que je devienne sa chose. Serge est furieux et voit son père d'un mauvais œil. Pourtant, Judith accepte toujours les invitations de Jean. Serge cache sa colère qu'il a contre son père. Les jours passent. Un soir, Judith téléphone à Serge à son pensionnat.
Allô, je suis Judith Lair, une amie de la famille Leduc. J'aimerais parler à Serge Leduc. Merci. Allô? Allô? Vous êtes Serge?
Oui, c'est moi.
C'est toi, Judith?
Oui, je n'en peux plus, Serge. Je te téléphone parce que ton père m'a violée dans son bureau ce soir. Je ne sais plus où j'en suis. C'est terrible. C'est terrible.
Salaud, le salaud! Il a osé te toucher.
Oui.
Il ne te touchera plus. Je te le jure.
Oh, Serge, je suis si seule. J'ai si peur. J'ai si peur qu'il revienne.
Ne te fais pas de soucis. Je vais te protéger et faire la peau à cette ordure.
Mais c'est ton père.
Non, je ne le veux plus pour père, un homme qui agit comme ça.
Oh, Serge, j'ai mal.
Ce fumier, il me le paiera. Ne te fais pas de soucis.
Oh, Serge, ne fais pas de bêtises. Tu n'es pas un homme. Je suis seul, sans défense. J'ai peur.
Ne crains rien.
Que vas-tu faire?
Eh, il a raccroché.
Elle sort du salon.
Aller dans sa chambre. Là, elle ouvre son armoire. Elle choisit une robe toute simple, beige. Des sous-vêtements. Une paire de chaussures d'été. Elle prend la robe. Et elle la déchire. Déchire les sous-vêtements aussi. Puis, elle cache les talons de ses chaussures. Se tire les cheveux, se démaquille, en laissant des traînées, se déshabille, et met les vêtements déchirés. Elle a mis les chaussures cassées.
Serge a 15 ans. Se croit un homme comme tous les jeunes de son âge. Il veut le prouver en s'attaquant à son père. Il ne réfléchit pas à l'absurdité de la chose, au peu de manque de preuves. Lui qui a toujours vécu avec son père, qui l'a vu bien, incapable de faire du mal à une mouche, il le voit en monstre parce qu'une femme le lui montre. Il n'est pas méchant, Serge, mais il ne supporte pas qu'on fasse du mal à ceux qu'il aime. Et puis, son côté mâle se réveille. Il veut montrer qu'il est un homme, un vrai, et que l'on peut compter sur lui. Après la communication qu'il a reçue dans le bureau du surveillant, il sort du bureau en sueur. Et sans réfléchir, il décide d'aller à Paris, puisque c'est là que se passe le drame. Il retourne dans sa chambre. Il est 21h. Les élèves sont dans leur chambre individuel et travail. Lui, une fois entré dans sa chambre, il va ouvrir son placard, prendre son cartable, sa veste, regarde dans son portefeuille s'il a sa carte pour payer, met sa veste, prend son cartable et sort de sa chambre. Il longe le couloir. Descend les escaliers. Au rez-de-chaussée, il va vers la sortie de la maison et sort. Il longe la cour. Il fait nuit, il n'y a personne. Et pas de bruit, à part le bruit de la nuit. Il arrive vers le portail, tente le coup, appuie sur la sonnette pour le faire ouvrir. Le gardien, qui a un logement dans une petite maison à côté de l'entrée, appuie sur le portail sans voir qui s'en va. Il regarde la télévision. Le portail s'ouvre. Serge se trouve dehors. La peur, la surprise d'être dehors lui fait oublier sa colère et lui fait animer, car cette fugue est pour lui une aventure personnelle, presque en dehors de l'autre. Elle est tout aussi palpitante, car elle
est personnelle. Elle vous est personnelle. Une fois dehors, il se dirige vers la gare. Fuis. Une fois dehors, ça lui fait oublier sa colère, car ça lui fait animer cette fugue. Et pour lui, une aventure personnelle, presque en dehors de l'autre. Presque en dehors de Judith. Elle est tout aussi palpitante, car elle lui est personnelle. Il est entré dans le hall de la gare. Il est presque vide. Il est tard. Va au guichet. Une place pour Paris, s'il vous plaît. Dans sa carte, l'homme le regarde et lui dit « Il est bien tard. » « Oui, on m'a téléphoné. Ma mère est malade. Je dois aller à la maison. » L'homme lui demande « Première ou deuxième ?»« Deuxième. » Il met la carte sur l'écran et la lui rend. Quai 2, Nord, dans 5 minutes. Serge y va. Peu de monde sur le quai. Enfin, le train arrive. L'on attend un peu et l'on peut entrer. Serge entre dans un wagon, choisit un compartiment vide. Et s'assoit. Puis, le train se met en route. Au fur et à mesure que le temps passe, Serge, la fatiguant, se sent de moins en moins furieux. Il a plutôt sommeil.
trajet est long, long. Il s'est endormi. Se réveille, le tien, le train roule, roule. Ses pensées sont confuses, il ne sait plus où il en est. Sa fierté, vieux, qu'il soit en colère, furieux, mais il n'y arrive pas vraiment. C'est long ce voyage. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.